Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Pascal Masri Kabissimo.
Au sommaire de cette édition, rencontre ce samedi à Butembo entre le numéro 2 des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix et l'évêque du diocèse catholique. Jean-Pierre Lacroix a évoqué avec Mgr Sikouli Melchisedek la nécessité de mutualiser les efforts pour restaurer la paix dans cette région en proie aux violences. À la faveur d'une ordonnance, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a investi vendredi à Kinshasa, Denis Kadima, comme président de la CENI et les autres membres de cette institution d'appui à la démocratie, et cela pour préparer les élections générales de 2023. RDC, le portrait de Denis Kadima dans ce journal. Notre invité, c'est le président de la nouvelle société civile du Congo, André Biadounia, parle des conclusions de son enquête sur la présence des ressortissants tanzaniens engagés comme coupeurs de canne à sucre à Kiliba dans le territoire d'Uvira au sud Kivu. Madame, Messieurs, bonsoir. En mission au Nord Kivu, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix a échangé ce samedi avec Mgr Sikouli Melchisedek, l'évêque du diocèse de Beni Butembo. Au menu, la situation sécuritaire marquée par les violences et les massacres des civils. Jean-Pierre Lacroix dit s'enquérir de la situation en vue de renforcer les mécanismes d'appui et réfléchir en même temps sur la mutualisation des efforts. Et cela pour restaurer la paix dans cette région. Reportage à Butembo de Grassa Mzati.
Dans ces échanges de plus d'une heure, il était question d'établir essentiellement sur la situation sécuritaire de la région dans ses différentes facettes. Jean-Pierre Lacroix parle ici de la détermination de l'ONU à travers la MONUSCO à appuyer l'État congolais dans la recherche de la restauration de la paix.
C'était très important pour nous de le rencontrer dans le contexte si difficile que connaît toute la région. Nous avons parlé très librement et très ouvertement de nos efforts, à la fois sur le plan sécuritaire, et notamment de tout ce que fait la MONUSCO et elle fait beaucoup pour appuyer les FARDC. Il y a eu des efforts faits pour renforcer la brigade d'intervention rapide. Je pense que ça portera ses fruits et nous avons aussi parlé des défis et des faiblesses qui doivent être remédiés du côté des FARDC. Je le dis avec honnêteté parce que c'est quelque chose qui est reconnu par les autorités au plus haut niveau. Bien sûr, nous avons parlé des attentes de la population et frustrations qui tiennent au fait que les groupes criminels continuent de faire des exactions et nous avons parlé des efforts qui doivent aller au-delà aussi de la réponse sécuritaire pour faire revenir l'État, revenir la justice.
Pour sa part, Mgr Sikouli Paluku Melchisedek, l'évêque du diocèse de Butembo Beni, réitère son message à la population, celui de garder espoir, quelles que soient les circonstances, tout en espérant que sa voix sera portée plus haut en vue d'une paix durable. Notons qu'après l'étape de Butembo, l'agenda de cette autorité des Nations Unies a prévu également son arrivée à Beni. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
En Ituri, pendant ces temps, les FARDC annoncent l'arrestation d'un homme qui s'apprêtait à créer une nouvelle milice regroupant tous les groupes armés actifs dans cette province. Appréhendé à Bounia le 29 septembre dernier, il a été présenté hier vendredi après-midi lors d'un point de presse tenu au gouvernorat. Le porte-parole des FARDC dans la province parlait d'un fils du terroir qui a été plusieurs fois arrêté puis relâché. Dans ses effets personnels, il y avait une carte de résident à l'étranger. À Bounia, c'est une correspondance de Jean-Claude Lokidile.
C'est depuis le 29 septembre 2021 que le service de sécurité affirme avoir mis la main sur cet homme, bien connu du milieu de Bounia pour y avoir vécu, déclare le lieutenant Jules Ngongo, le porte-parole de l'armée en Ituri. Il serait, selon les autorités militaires, le cerveau d'un nouveau groupe armé en gestation dénommé Union Nationale pour le Changement Intégral, UNCI. Plusieurs documents suspects ont été retrouvés dans ces effets. Il s'agit notamment d'une carte de visite à l'étranger, mais aussi des organigrammes du groupe armé en gestation. L'objectif, poursuit la même source, était de fusionner tous les mouvements armés actifs en Ituri pour déstabiliser la province. Le lieutenant Jules Ngongo.
C'est lui le centre de gravité d'un nouveau mouvement que les forces
forces armées et les services de défense viennent d'étouffer en l'œuf avant son éclosion. Il était question de réunir tous les groupes armés actifs en Ituri pour déstabiliser l'Ituri. Nous allons continuer dans cet élan avec tous les services étatiques pour restaurer l'autorité de l'État.
Toujours selon l'armée, d'autres compagnons de cet homme sont également aux arrêts. Alors qu'il est, l'instruction de leur dossier se poursuit. Le mois dernier, c'est une femme, présumée membre du groupe armé des ADF, qui a été arrêté à Mahagui, puis acheminé à Bounia avec plusieurs effets militaires. Bounia, Jean-Claude Lokidile, Radio Okapi.
Et puis, réaction au Nord Kivu de l'auditeur supérieur près, la Cour militaire aux allégations de l'ONG Congo Conscience, des allégations diffusées jeudi dernier sur Radio Okapi à Goma, selon lesquelles la corruption, le clientélisme et le trafic d'influence sont devenus récurrents ces jours-ci au parquet militaire de cette période de l'état de siège. D'autres précisions à Goma avec vous, Sifa Maguru.
Pour le colonel magistrat Michel Kachil, toutes les pratiques rétrogrades qui ternissent l'image de la justice en cette période de l'état de siège doivent être sévèrement sanctionnées. C'est confiant à Radio Okapi, ce haut magistrat met en garde tout militaire ayant une attribution dans la chaîne pénale qui se verserait dans les pratiques qui vont à l'encontre de l'éthique de la profession. Il cite notamment les magistrats, les inspecteurs judiciaires ainsi que les soldats commis au cachot de l'auditorat. Le colonel Michel Kachil a fait savoir par la même occasion que les droits reconnus aux personnes détenues ainsi qu'aux justiciables sont inviolables et sont passibles de lourdes peines. L'auditeur supérieur s'est dit disponible à recevoir toutes les personnes lésées dans leurs droits ainsi que toute personne victime de ces abus. Il les exhorte à les dénoncer le plus vite que possible à son cabinet dont les portes restent grandement ouvertes, a-t-il conclu. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Nord Kivu encore, la gestion transfrontalière du lac Édouard est loin d'être pacifique entre la RDC et l'Ouganda, malgré les patrouilles conjointes dont la troisième phase a été lancée lundi dernier par les marins des deux pays. Le secrétaire exécutif des pêcheurs individuels affirme à Radio Okapi qu'une cinquantaine de ses membres ont été interpellés jeudi et ce vendredi par les marins ougandais pour une violation présumée de frontières. Josué Mukura plaide pour une solution à ce problème. Il s'est confié à Bernard Denyangui.
Nos pêcheurs congolais continuent toujours à être arrêtés par la marine ougandaise. Avant-hier, 9 pirogues motorisées avec 27 pêcheurs ont été arrêtés au niveau de l'Ouganda par la force marine de Rwachama, mais libérés hier. Mais aujourd'hui encore, il y a 7 pirogues motorisées saisies et 21 pêcheurs arrêtés. Nous demandons vraiment l'implication des autorités tant nationales que provinciales pour la libération de ces pêcheurs. Mais aussi, dans le cadre vraiment de faire régner la paix sur le lac Édouard, nous demandons vraiment la mobilité de la force navale sur la frontière pendant cet état de siège, et même après l'état de siège, puisque nous, pêcheurs congolais, nous sommes en train de souffrir, vous voyez, dans moins de 2 jours, il y a plus de 50 pêcheurs qui ont été arrêtés en Ouganda. Nous demandons aux autorités nationales et provinciales d'accélérer le processus de la démarcation de la frontière pour réduire les cas des arrestations des pêcheurs congolais en Ouganda, comme le cas aussi des pêcheurs ougandais au niveau du Congo.
Rappelons que depuis le mois de mars dernier, le projet de gestion intégrée des pêcheries et des lacs Édouard et Albert LIF2 a initié conjointement des patrouilles conjointes des marins ougandais et congolais. Cette semaine, ces patrouilles mixtes contre la pêche illicite sont à leur troisième phase. On en vient maintenant à la politique. À la faveur d'une ordonnance rendue publique vendredi soir à Kinshasa, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a investi Denis Kadima dans ses fonctions de président de la CENI et les autres membres de cette institution d'appui à la démocratie pour préparer les élections générales de 2023 en RDC. Le portrait de Denis Kadima avec vous, Donamadi Mbambaya.
À lire sa biographie proposée par de nombreuses sources documentaires disponibles, Denis Kadima donne envie sur le papier. 60 ans d'âge depuis septembre dernier et licencié en sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi, Denis Kadima est aussi détenteur d'un master en sciences politiques et un diplôme post-universitaire en administration des affaires de l'université de Witwatersrand d'Afrique du Sud, la même université où Nelson Mandela a obtenu en 1942 son diplôme de droit. De 1987 à 1992, Il a été tour à tour chef de service et gérant de succursales à la Banque commerciale zaïroise et de 1995 à 98, il a dirigé le programme L'Ashoka Innovateur pour le public basé en Afrique du Sud. 30 ans de carrière à ce jour passé dans le secteur des élections, Denis Kadima, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, compte en son actif une participation à une soixantaine de processus électoraux et politiques en Afrique et dans le monde, et cela à divers titres. Le Congolais a contribué à la création du Forum des commissions électorales de la SADC, SADC-ICF, en 1998, participé à l'élaboration des normes et standards électoraux du Forum parlementaire de la SADC en 2001, ainsi que des principes de l'Union africaine régissant les élections démocratiques en Afrique 2002. Il a joué un rôle de premier plan dans l'élaboration des principes pour la gestion, l'observation et la surveillance des élections dans la région de la SADC-PEMO pour le compte de l'EISA et de la SADC-ICF en 2003. Il a contribué au développement de la déclaration de principes pour l'observation internationale des élections et du code de conduite des observateurs internationaux en 2005. Il a travaillé de nombreuses fois avec l'ONU et des pays comme la Tunisie et le Soudan. Cette expertise à l'international a permis à Denis Kadima de mieux appuyer les parties prenantes électorales de la RDC. Ainsi, depuis 2004, il a développé, obtenu le financement et mis en œuvre de larges projets en faveur de ses parties prenantes. Ceux qui critiquent la présence de Denis Kadima à la tête de la CENI craignent un parti pris pour le régime et un manque de courage à proclamer les vrais résultats si Félix Tshisekedi perd la présidentielle. Mais le polyglotte qui parle couramment toutes les langues de la RDC et en plus de l'anglais et le français invite les gens à le juger pour les actes qu'il posera.
Merci Donna Madimba Mbaya pour ces précisions. Le coordonnateur du collectif d'action de la société civile salue l'investiture à Kinshasa des nouveaux membres de la CENI. S'est confiant à la presse ce samedi à Kinshasa, Joseph Nkinzo a exhorté les parties prenantes au processus électoral à éviter la polémique. Il demande au gouvernement central d'offrir les ressources nécessaires à l'organisation des élections crédibles et transparentes. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Il n'est pas question d'installer une CENI sans ressources, sans moyens. On ne peut pas aller sur le front sans armes ni munitions. Nous espérons que le gouvernement, de par le budget actuel et le budget de l'année 2022, on va attacher beaucoup plus d'importance aux élections de 2023. Nous appelons aussi le peuple congolais à pouvoir se mobiliser pour accompagner et soutenir ce processus électoral en se mobilisant pour voter et surtout voter utile. Il est temps que chacun commence à identifier quel acteur pourrait aider à la reconstruction de ce pays qui a besoin de se repositionner dans l'espace des nations. Il n'est plus question de polémiquer. Il est temps de prendre chacun sa responsabilité à ce niveau et pouvoir s'assumer. Nous devons accompagner ce processus, nous devons soutenir cette CENI et exiger de la transparence et l'organisation des élections crédibles et participatives où chacun pourra se retrouver.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, le président de l'intersyndicale de la Société commerciale des ports et transports ex-Onatra dénonce la répression vendredi après-midi par la police nationale de la marche de ses agents qui voulaient soutenir les actions du chef de l'État. Armand Osassé affirme qu'une dizaine d'agents de l'ex-Onatra ont été arrêtés et torturés. Il appelle à des sanctions contre les auteurs de ces actes. Des propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
D'abord, je dénonce, ce sont des actes insupportables. Le gouverneur a été bien informé. Nous avons tous les accusés de réception. J'ai été torturé alors que notre marche c'était de soutenir les chefs de l'État conformément aux trois grandes décisions d'État. Porte à fermeture des ports. Lorsqu'une marche pour soutenir les chefs de l'État, il y a des répressions graves. Et dans nos calicots, c'était bien écrit remerciement au président de la République. C'était une opération juste pour toucher à notre vie. Beaucoup de travailleurs blessés. Moi-même, j'étais torturé. Je demande l'implication du chef de l'État, aussi bien du premier ministre, le vice-premier ministre de l'Intérieur. La police est infiltrée. Ça, c'est régler des comptes aux gens. Nous réclamons la fermeture des ports privés, conformément aux décisions du chef de l'État. Notre créance de 2,7 millions pour cette année, c'est zéro, aucun mois payé, et c'est grave.
Actualité internationale.
Une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est attendue ce soir à Bamako pour une visite de 2 jours. C'est dans le cadre des consultations engagées depuis la création de la MINUSMA en 2013. Cette visite officielle intervient dans un contexte très tendu marqué par l'éventualité d'un contrat avec les mercenaires russes du groupe Wagner, mais aussi d'un allongement de la transition au pays. Les autorités qui se sont déjà engagées sur une période de 18 mois envisagent d'ores et déjà de repousser cette échéance. La déclassification des archives secrètes sur l'assassinat à Dallas en 1963 de l'ancien président américain John Kennedy sera reportée d'un an, annonce faite à Washington par le président. Joe Biden assure que cette certification aura lieu autour du 15 décembre 2022, près de 60 ans après le meurtre. Deux hauts représentants des Nations Unies ont averti que la Birmanie pourrait tomber dans une guerre civile. Depuis le coup d'État du 1er février dernier, la junte au pouvoir continue à réprimer le peuple birman. Si des milliers de personnes ont été libérées cette semaine, une centaine d'opposants ont de nouveau été arrêtés. Les émissaires des Nations Unies affirment qu'un retour à la démocratie est de moins en moins probable.
L'invité.
Le président de la nouvelle société civile du Congo, André Biadounia, a enquêté récemment sur la présence de ressortissants tanzaniens engagés comme coupeurs de canne à sucre à la sucrerie du Kivu à Kiliba dans le territoire d'Uvira. Il s'entretient avec Fiston Ngoma Mayabala.
André Biadounia, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'effectuer une mission à Kiliba, Ondes. Quel a été d'abord l'objectif de votre mission à Kiliba, Ondes, sucrerie?
La sucrerie a recruté des gens venus de Zimbabwe et de la Tanzanie, mais aussi du Burundi. Et qu'ils seraient des mèches avec les gouminos dans les Mayeho plateaux. Voilà, ils nous ont même dit que non, tel jour Uvira va tomber parce que ces gens qui sont à la sucrerie vont accueillir les autres gouminos, tout ça.
Quelle est la réalité sur le terrain?
Nous sommes descendus sur les lieux, on a rencontré les responsables de la sucrerie. Ils nous ont réellement accepté qu'ils ont des gens là-bas, mais pas des Zimbabwe, mais des Tanzaniens. Ils sont 100. Nous sommes descendus jusqu'au secteur 6. Nous les avons rencontrés là-bas et ils nous ont dit qu'ils sont là pour les activités de coupe de canne à sucre.
Vous les avez rencontrés, vous vous êtes entretenu avec ces personnes?
Oui, nous les avons rencontrés, nous avons même pris des photos, nous sommes même partis dans les champs, on les a rencontrés en pleine activité, mais nous avons été surpris parce que ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux n'a pas été vraiment ce que nous avons rencontré parce que on disait qu'il n'y avait pas les services de sécurité, mais on a rencontré au moins les FRDC sur place. On a rencontré que ce sont les femmes congolaises qui préparent pour se couper des cannes à sucre. Mais aussi on a rencontré un président de jeunes, en même temps infirmier du centre hospitalier de Kiliba, détaché sur les lieux pour aller soigner, se couper des routes qui peuvent soit tomber malade ou soit très très blessé pendant...
Au secteur 6.
Au secteur 6. À 6 km de Kabulimbo, mais à 2,5 km de l'usine des cannes à sucre. Nous avons essayé de poser la question aux responsables de la sécurité. Pourquoi recruter les gens qui viennent d'ailleurs? Ils nous ont dit oui, c'est simplement parce que les Congolais ne veulent pas travailler, parce qu'ils disent que le salaire ou la prime est très dérisoire. Et nous aussi on a constaté cela parce qu'on ne peut pas donner à un Congolais ou à quelqu'un qui va passer la journée de 7h à 18h et qu'on lui remette 4300 francs congolais, c'est vraiment insignifiant.
Mais les ressortissants tanzaniens ont accepté les conditions?
Les ressortissants tanzaniens, selon les responsables de la SICI, nous ont dit qu'ils ne sont pas concernés par la prime locale au niveau de la sucrerie, mais ils sont payés par l'usine de Kagera, parce que l'usine de Kagera, c'est une usine sœur, gérée par les responsables de la sucrerie de Kiv. Kagera, c'est en Tanzanie. Ça veut dire que les responsables de la SICI de Kiliba, de Kivu, c'est lui encore le responsable de la sucrerie de Kagera en Tanzanie. C'est comme ça qu'il s'est rendu compte qu'au lieu de perdre le temps, parce qu'il a dit qu'il les a amenés pour des raisons. La première, c'est que il y avait déjà les cannes à sucre qui étaient à maturité, qui étaient déjà prêtes. Mais malheureusement, il n'y avait pas...
Pour la coupe.
Pour la coupe. Il n'y avait pas de coupeurs pour le faire.
Et la campagne sucrière traînait.
La campagne traînait déjà et qu'il faudra qu'on produise pour que la sucrerie démarre. C'est comme ça qu'il s'est dit, on doit amener nos coupeurs de cannes à sucre qui sont dans notre usine là-bas. Mais ils sont pris en charge par la sucrerie de Kagera en Tanzanie, mais non par la sucrerie de Kivu.
À un moment donné, il y avait des manifestations à Kiliba, qu'il y avait importation de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, vous êtes devant un fait accompli avec la jeunesse de Kiliba.
Oui, effectivement, nous sommes entretenus avec certains jeunes de Kiliba. Nous avons été avec eux parce que nous sommes descendus sur les lieux. Mais aussi, il faudra vous dire que les salaires, la prime est dérisoire. C'est pour cela que les jeunes nous ont dit qu'ils ne peuvent pas travailler sur base de 4300 francs congolais parce que c'est insignifiant, ça ne peut pas couvrir. Mais aussi, pour avoir ces 4300 francs congolais, vous devez attendre 2-3 mois après pour que vous soyez payé. Mais lorsqu'on a posé la question aux amis de la sucrerie, ils nous ont dit que c'est vrai, c'est dû à la non-production par la sucrerie du Kivu. Parce que ceux qui supportent la charge de la sucrerie du Kivu, ça vient des autres usines dont les propriétaires de la Suki Kivu est responsable ailleurs, soit à Kagera et dans d'autres pays. Voilà, c'est pourquoi ils ont recouru à cette main-d'œuvre-là. Mais pour nous, nous nous sommes rendus compte que c'est une faiblesse de la part de l'État congolais. Parce que l'État congolais est actionnaire dans la sucrerie du Kivu. C'est l'État qui devait tout arranger. En termes des SMIG, l'État devait dire pour la RDC, le SMIG, c'est 5$. Et les jeunes, pendant notre entretien, nous ont dit que si la sucrerie acceptait de payer 5$ par jour, ils sont prêts pour travailler. La main d'œuvre est là. Et nous aussi, on a encouragé à ce que la sucrerie puisse utiliser la main d'œuvre. Nous avons même recommandé que ce soit la dernière fois. Il faut qu'on recrute les gens localement parce qu'ils ont déjà commencé à produire et qu'avec cette production-là, ils peuvent supporter les charges pour les travailleurs recrutés localement.
C'était l'invité de Radio Okapi, le président de la nouvelle société civile du Congo, André Biedounia, était interviewé à Ouvira par Fiston Ngoma Mayala. Fiston Ngoma Mayala, c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Merci infiniment à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Ben Kabamba. Retrouvez ce journal sur www.radiokapi.net.